Le quart d'heure corésien, l'émission d'information hebdomadaire de Bram FM et RGB.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le quart d'heure corésien épisode 3. Bonjour Thomas Vandendrich.
Bonjour Olivier.
Cette semaine, nous vous proposons trois sujets. Nous irons à Égletton comprendre ce qu'il se passe entre la Syrie Farge, la communauté de communes Ventadour-Égletton-Monédière et des habitants menacés d'expropriation. Ensuite, nous verrons la publication de son rapport sur l'état de la pauvreté en France avec le Secours catholique corésien et nous verrons comment évolue la pauvreté dans le département. Vous entendrez aussi comment les Restos du Cœur s'adapte en cette période. Enfin, dans la troisième partie de ce quart d'heure corésien, vous entendrez Victoria Manzoni. À 32 ans, cette néo-briviste a ouvert il y a un an une boutique où elle fabrique des pâtes fraîches. Entre devenir sa propre patronne, son envie de qualité et ses ambitions, vous découvrirez le portrait de cette jeune femme corésienne en fin d'émission. Le quart d'heure corésien, vous avez le menu ? C'est parti ! C'est le dossier de la semaine, Thomas Vandendrich. Tu es allé à Égletton pour comprendre pourquoi près de 200 personnes s'étaient mobilisées la semaine dernière dans la commune. Mobilisation organisée par l'association Citra. C'est l'association citoyenne Tra-le-Bosse, comme le nom du lieu dit, sur lequel un projet d'extension de la zone industrielle d'Égletton est en cours. Ce projet, Thomas, quel est-il ?
Eh bien déjà, on a le problème des parcelles qui sont ciblées par Fargebois. Sur les terrains, il y a des agriculteurs et surtout une octogénaire qui vit là depuis 1974. Les négociations n'ont pas abouti et c'est donc la communauté de communes qui s'en est mêlée. C'est elle qui a la compétence du développement économique sur le territoire. Et l'année dernière, la Comcom a demandé une déclaration d'utilité publique pour ce projet de développement autour de l'A89, dont fait partie le projet de Farge. C'est cette DUP qui fait tant de bruit en ce moment, car c'est elle qui permet à la Comcom d'exproprier les exploitants et la petite dame de 84 ans. Alors de son côté, la Comcom est claire, tout comme le directeur de l'entreprise Farge, Damien Larue. Pour eux, les négociations sont très avantageuses pour Madame Monjanel, l'octogénaire.
Il y a eu des négociations entre la communauté commune et la propriétaire de la maison, notamment en lui proposant la possibilité de pouvoir continuer à y habiter.
Mais selon la fille de Madame Monjanel, Brigitte Mangeon, cette proposition n'est en rien avantageuse pour sa mère à cause des nuisances et des problèmes de sécurité.
Elle aura d'un côté les grumes, le parc à grumes, les camions, la machine, le bruit, et de l'autre côté, elle aura des camions qui vont circuler aussi. Franchement, c'est pas possible.
Mais comme on l'a dit, cet octogénaire n'est pas la seule personne impactée par cette histoire d'expropriation. Il y a aussi deux agriculteurs qui en sont menacés. Marie-Thérèse Touquet est éleveuse de Limousine. Elle est inquiète pour son exploitation et pour son fils de 20 ans qui espère bien reprendre la ferme.
S'ils arrivent à traverser la route, venir chez nous, et bien après, ils nous en prendront d'autres hectares. Mon fils, si on lui prend les terrains, et bien il pourra pas s'installer. Voilà. Pour aller travailler ailleurs ou s'inscrire au chômage.
D'accord Thomas, donc Madame Monjanel va être forcée concrètement de vivre au milieu de la Syrie. Mais les exploitants s'inquiètent pour leurs exploitations bien sûr. Mais au-delà du volet humain, il y a également un enjeu environnemental je crois.
Tu as raison Olivier, l'opposition se concentre aussi sur les conséquences environnementales d'un tel projet. Le directeur de la Syrie défend le projet de son groupe sur le plan écologique. Selon lui, il répond à un besoin dans le secteur bois sur ce niveau et notamment...
Pour pouvoir répondre à l'objectif bas carbone, qui est un objectif européen qui se décline avec l'État français qui demande notamment à ce qu'en 2030, on ait 30% de nos logements qui soient faits en bois. L'intérêt de la construction bois étant de capter du carbone et de mobiliser du carbone.
Selon Brigitte Mangeon, cet argument ne correspond pas à la réalité.
Il dit qu'il va porter sa production de 150 000 mètres cubes à 250 000 mètres cubes. 250 000 mètres cubes, rien qu'ici. Donc, où est-ce qu'on va couper tous les bois ? Dans la forêt limousine, ailleurs ? Si on ne fait que la forêt limousine, 250 000 mètres cubes, ça doit représenter à peu près un huitième de la forêt limousine.
Mais ce n'est pas tout, puisque le transport pose également problème.
Après, il y a des camions. Ces bois, ils arrivent de partout. Et on vous dit, non, on va les chercher juste à 100 km à la ronde. Oui, moi, je voudrais qu'on me le prouve. Parce que vous avez des camions qui arrivent de partout. Il a une usine en Pologne qui ramène du bois. Si ça, c'est écologique, alors excusez-moi, je ne comprends plus rien.
Pourtant, pour M. Larue, le projet est inévitable et même souhaitable sur certains aspects.
Si nous, on ne le fait pas, si des gens comme Farge ne le font pas, ça continuera à être en importation, notamment via l'Allemagne, l'Autriche ou la Scandinavie. avec des produits constructifs qui vont venir de ces pays-là, alors qu'on a la ressource forestière pour pouvoir le faire. Il ne reste plus qu'à avoir les capacités de production pour pouvoir répondre à cette demande-là. Nous, sur le site, on essaiera de développer cette solution-là, on a tout intérêt. C'est sûr que si on n'a pas la possibilité de s'étendre, on le fera avec moins de volume et moins vite.
Et la question de l'emploi dans tout ça, est-ce que ce projet va en créer ?
Eh bien, selon le directeur de Farge, oui.
C'est au minimum plus d'une cinquantaine d'emplois. On va juste rappeler que sur notre site, on est passé entre 2005 de 35 emplois à aujourd'hui plus de 230. Et que notre volonté, elle est quand même de bien transformer sur notre territoire les forêts qui grandissent ici. On a tout intérêt collectivement à les transformer au plus près de la forêt nos produits pour pouvoir en plus répondre à ce besoin de construction.
Mais selon Madame Mangeon, ce n'est qu'un argument pour obtenir l'approbation des élus locaux.
On leur avait fait venir 150 emplois. Donc voilà, j'avais beau leur dire que ce ne sera pas chez nous qu'il y aura des emplois, parce que chez nous ça va être un parc agrumes et une machine qui va marcher tout seul. Ils n'ont rien voulu savoir.
Finalement, on le comprend bien, les différentes parties campent sur leur position et c'est une affaire qui risque de durer encore quelques années. Des recours ont notamment été déposés auprès des tribunaux administratifs, des recours qui ciblent principalement la fameuse déclaration d'utilité publique.
Vous écoutez le quart d'heure corrézien sur Bram FM et RGB.
Fin novembre, Olivier, le Secours catholique dressait l'état de la pauvreté en France en 2022. Un rapport statistique mené au cours de l'année 2021 par les bénévoles et les salariés du Secours catholique. Et dans ce rapport, Olivier, on peut lire qu'en France, le revenu médian des personnes accueillies est de 548 euros par mois. En Limousin, ce revenu médian est encore plus faible.
Oui, il est de 500 euros par mois. En clair, lorsque tu as payé ton loyer, tes factures d'électricité, d'assurance et l'essence de ta voiture, eh ben, il ne te reste plus que 5 euros par jour pour pouvoir manger, mais aussi t'acheter des vêtements. Et cette étude statistique permet à Elisabeth Vibault, l'animatrice du Secours catholique en Corrèze, de constater que la place des mères isolées est de plus en plus importante.
Les mères isolées représentent 25% des personnes que nous accueillons. Les pères isolés, c'est 3,6%. Des couples avec enfants représentent quand même 21,7%. La majorité des personnes que nous accueillons sont des mères isolées. Il y a 47% des personnes aidées par le Secours catholique qui sont des enfants.
Autant dire que pour Hubert Gaume, le président du Secours catholique en Corrèze, ces statistiques sont alarmantes.
C'est très inquiétant parce que ces personnes-là, avec 5 euros, ben, elles sont obligées de faire des arbitrages. Faut-il que je m'habille ? Faut-il que je me prive d'un repas ? Et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est qu'il y a quand même 47% des gens que nous aidons, en fait, que nous ne voyons pas directement, mais qui sont des enfants. Et les enfants, bah, c'est l'avenir.
Toujours selon Hubert Gaume, au-delà de l'aspect purement financier de la pauvreté, c'est la question de l'état psychologique des bénéficiaires qu'il faut aider.
Les gens qui sont pauvres, très souvent le sont suite à des accidents de la vie, suite aussi à des fragilités d'ordre psychologique, des handicaps. Et on est là justement pour accompagner toutes les pauvretés, qu'elles soient matérielles, mais aussi psychologiques.
Et c'est d'autant plus important que l'inflation de ces derniers mois rôde tel un spectre au-dessus des plus défavorisés.
Ça risque d'être un petit peu explosif parce que les gens qui sont au bord de situations de pauvreté risquent très vite de plonger dedans. On parle aujourd'hui d'une inflation alimentaire, en particulier sur les produits frais, mais pas que, de l'ordre de 12%. Ça devient très inquiétant. Alors, je ne parle pas du carburant, hein, et le carburant peut être absolument essentiel pour certaines personnes parce que si elles n'ont pas de carburant, elles ne peuvent pas aller au travail. Donc, si elles ne vont pas au travail, elles n'ont plus de revenus, et si elles n'ont plus de revenus, elles viennent chez nous.
Alors, il n'y a pas que le Secours catholique qui doit faire face à cette situation. Thomas, tu l'as aussi constaté lorsque tu es allé lundi dernier à la distribution de denrées alimentaires au Resto du Cœur à Tulle. Des restos qui, là aussi, ont dû s'adapter.
Au niveau des Restos du Cœur, de nouvelles personnes viennent bénéficier des distributions alimentaires. C'est le constat que fait Françoise Serron, la directrice des Restos du Cœur à Tulle.
On a augmenté de 1000 repas par semaine. Nous avons actuellement d'autres personnes qu'on ne voyait pas avant, notamment les jeunes, à l'école d'infirmières de Tulle.
Cela oblige les Restos du Cœur à s'adapter en conséquence pour répondre à cette augmentation de bénéficiaires.
Au niveau des Restos du Cœur cette année, on prend en compte dans l'étude du barème les notes d'électricité et de gaz, chose qu'on ne faisait pas avant. Une autre chose qui a changé aussi au Resto du Cœur, c'est qu'avant, dans les autres campagnes, on s'arrêtait à 6. C'est-à-dire que même s'il y avait 5 enfants et 2 parents, nous, on distribuait pour 6 et pas plus. Et maintenant, on distribue en fonction de du nombre réel de la famille. C'est-à-dire s'ils sont 8, on donnera pour 8. S'ils sont 10, on donnera pour 10.
Mais à cela s'ajoute un autre problème. La quantité de denrées récupérées est plus petite que les années précédentes, comme le souligne François Séron.
La grande distribution s'est adaptée à la précarité et a proposé à ses clients des denrées durées courtes. Résultat des courses, et ben nous, il y en a moins pour nous, évidemment. Il y en a moins au resto. Donc nous, on est passé... on a diminué de 50% au niveau des ramasses. Tout ce qui est œufs et riz, ça nous manque.
Une situation compliquée donc pour les Restos du Cœur et pour les bénéficiaires.
Et pour aider au mieux les associations caritatives, vous pouvez donner de votre temps, un temps précieux et salutaire en devenant bénévole pour ces associations. Des associations qui, aux côtés des travailleurs sociaux, des centres communaux d'action sociale et des services du département, restent mobilisées pour suivre tout au long de l'année, pas après pas, les personnes en difficulté.
Le quart d'heure corrézien est à retrouver aussi sur bramfm.com et rgb-radio.net.
Nous voilà arrivés dans la troisième partie de ce quart d'heure corrézien, partie que nous voulons consacrer à vous, les corréziens. Cette semaine, Olivier, tu es allé à la rencontre d'une jeune entrepreneuse briviste. Elle s'appelle Victoria Manzoni. Depuis un an, elle est à la tête de sa boutique à Brive, rue de la République, boutique dans laquelle elle fabrique des pâtes fraîches, mais aussi des raviolis. Et justement, Olivier, tu l'as rencontrée en pleine production de raviolis.
Pour faire les raviolis à la machine, j'ai besoin de 2 rouleaux de pâtes qui vont se rejoindre avec la farce au centre pour former les raviolis.
Des raviolis et des pâtes aux accents italiens, mais pas que. Dans son autre vie parisienne, Victoria Manzoni a travaillé dans une entreprise d'achat spécialisée dans les produits sourcés et de qualité.
Ma semoule vient de Sicile, donc une minoterie qui ne se fournit qu'en blé local. Et je pense qu'il y a une histoire de terroir. Il y a le soleil assez longtemps toute l'année et puis le blé dur a besoin de pas mal de soleil pour grandir, donc c'est pour ça que la Sicile est connue, et puis ce qui me permet aussi de rapporter un côté italien à ma pâte plutôt que de prendre une semoule française.
Alors même si l'Italie est véritablement présente dans la maison Manzoni, Victoria n'en oublie pas pour autant les producteurs corréziens.
Pour moi c'est un peu une obligation, c'est-à-dire que vraiment ça me tient à cœur de ne pas faire venir des choses inutilement si on peut les trouver ici. Et puis de faire travailler le tissu local, ça me fait plaisir de travailler avec une maraîchère qui fait de super bons produits, de travailler avec la viande fraîche, avec mes sacs viande. C'est ce qui me fait en fait travailler, c'est ce qui me fait plaisir quand je travaille mes farces. C'est vraiment de me dire, ok, c'est des jolis produits.
En quelques mois, cette grande dame élancée, blonde, aux yeux bleus, cachée derrière une petite frange, a su conquérir le cœur des gourmets.
Voir surtout que ça a été très bien accueilli, que les gens sont contents, qu'ils reviennent avec des étoiles dans les yeux, en me disant que c'était délicieux et l'envie d'en racheter pour pouvoir faire découvrir à la famille ou simplement d'en remanger. Donc ça, c'est vrai que c'est cool.
Parce que si changement de vie il y a eu pour Victoria Manzoni, les confinements n'y sont pas pour rien.
Je me suis mise à faire des pâtes fraîches en découvrant un livre qui s'appelle Pasta Granise. C'est une journaliste anglaise qui est partie à la découverte de toutes les grand-mères qui font encore les pâtes à la main en Italie. Et donc je me suis amusée à faire ces pâtes à la main également. Et puis je me suis dit, pourquoi pas faire découvrir un petit peu ce trésor italien.
Des trésors culinaires que Victoria Manzoni espère bien encore faire découvrir.
Ça marche bien pour le moment et j'ai enfin pu prendre un peu mes marques. On va dire que ça roule un petit peu mieux en termes de structure et d'organisation. Après, pourquoi pas proposer d'autres produits, typiquement des gnocchis, des plats cuisiniers type lasagne, cannelloni. Chose que j'ai des difficultés à faire toute seule, voire même c'est quasi impossible, puisque les raviolis et les pâtes me demandent pas mal de temps, plus l'ouverture de la boutique. Donc pourquoi pas embaucher.
pour pouvoir me permettre de proposer une gamme un peu plus large.
La maison Manzoni est ouverte du mardi au samedi au 11 rue de la République à Brive. Attention, c'est fermé le mercredi toute la journée pour cause de production. Cette semaine, Victoria vous propose deux recettes. L'une, potimarron, lard de colonnata et paleggio, un fromage italien au goût subtil. Les autres raviolis sont au jambon de Parme et ricotta.
Voilà qui met vraiment l'eau à la bouche. Merci beaucoup Olivier.
Avec plaisir.
C'est déjà la fin de ce quart d'heure corésien, le magazine d'info hebdomadaire qui vous donne enfin une excuse pour arriver en retard à votre prochain rendez-vous. Merci à Isabelle Védrenne et Eve Hermary de Bram FM pour leur encouragement. Et à vous toutes et à vous tous qui nous laissez des messages sur les réseaux sociaux de Bram FM et RGB. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine sur nos ondes. Au revoir Olivier.
Au revoir Thomas.
Vous venez d'entendre le quart d'heure corésien à réécouter sur bramfm.com et rgb-radio.net.